Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Beaucoup de chrétiens à travers le monde pensent que l'apôtre Paul était extrêmement critique envers la loi de Dieu, la loi divine. Pendant des siècles et aujourd'hui encore, on essaye de nous expliquer que Paul, l'apôtre, croyait que la loi est en fait une malédiction ou un fardeau, et qu'il n'est plus nécessaire de l'observer pour être sauvé. Eh bien, cette fausse théologie de la grâce pourrait presque nous faire croire que maintenant la loi, les 10 commandements divins, peuvent être considérés comme caducs. C'est hallucinant. C'est tout simplement faux. Pourquoi? Eh bien, dans l'épître aux Romains, dans son épître aux Romains, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit ceci au chapitre 7, verset 12. Romains 7, 12, Paul déclare lui-même, en effet, « La loi est donc sainte » et le commandement de Dieu est saint, juste et bon. Ces trois adjectifs prouvent qu'en fait, Paul estimait la loi divine au plus haut point. La loi divine est sainte. Les lois humaines, elles, par contre, nous le savons bien, sont sujettes à beaucoup de changements, à des amendements, à des révisions. Les lois de Dieu, elles, sont différentes. Elles sont intemporelles. Elles sont parfaites. Ensuite, Paul nous dit que la loi de Dieu est juste. En d'autres termes, il affirme qu'elle nous transforme, elle nous change, elle nous montre à quoi ressemble la véritable droiture. Enfin, Paul affirme que la loi est une bonne chose. Elle est bonne, elle est donc créée pour faire du bien, pour notre bénéfice. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent plus la différence entre le vrai bien et le vrai mal, où est-elle? Chacun semble avoir sa conception. La conception sociale générale du bien et du mal est ancrée dans la propre opinion de chacun, même la propre vérité, les opinions, façonnées en partie d'ailleurs par la société qui évolue. En fait, c'est plutôt l'expérience personnelle de chacun qui semble dicter la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Dieu sait ce qui est bon. Il sait ce qui est bien pour chacun de nous. Il est l'autorité suprême. C'est lui qui la possède. Il sait exprimer, d'ailleurs, ce bien à travers sa loi. Donc, pour le peuple de Dieu, au final, si un principe est contraire, entre en conflit avec les commandements de Dieu, d'ores et déjà, nous savons que ce n'est pas une bonne chose. Tout simplement. Mais il y a mieux. Il y a mieux encore. Non seulement Paul aimait la loi de Dieu, non seulement il n'en avait pas peur d'ailleurs, mais il en décrivait tous les contours, parce qu'il la connaissait très bien. Rappelez-vous, il avait été enseigné par Gamaliel, une haute autorité du judaïsme pharisien. Et Paul reconnaissait que la loi de Dieu décrit en fait Dieu lui-même. La loi de Dieu décrit ce que Dieu est. Il est saint, il est juste et il est bon. L'apôtre Paul confirmait en fait ce que Jésus disait à l'un des disciples, qui s'appelait Philippe, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 19, pardon, Jean, chapitre 14, verset 9. « Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Comment dis-tu, toi, Philippe, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, ajoute-t-il, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. La parole de Dieu vient donc du Père. Les commandements viennent du Père. Et nous savons que Jésus a toujours obéi aux commandements, et à tous les commandements, à toute la loi. Il n'existe pas de péché qui soit bon, il n'existe pas de péché qui soit juste. La transgression de la loi, c'est le péché. C'est précisément le contraire de ce qui est bien. C'est impur, c'est injuste, c'est mauvais. Et le peuple de Dieu, les chrétiens, sont donc appelés à s'efforcer d'imiter Dieu en tout point, grâce à la puissance du Saint-Esprit, non pas de leur propre force, mais grâce à l'Esprit de Dieu en eux. Et cela implique, bien entendu, de se conformer aux commandements qui reflète la sainteté, la justice, en définitive, aussi la bonté. Et c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, la bonté de Dieu en nous, comment agit-elle? La bonté de Dieu en nous, agissante en nous, au bénéfice de notre prochain, au bénéfice des autres. Alors, au cours de ce message, nous mettrons donc le projecteur sur la bonté de Dieu en nous. Premièrement, une définition. Nous verrons en quoi la bonté de Dieu doit devenir en fait un cheminement intérieur qui vient de Dieu en nous et qui ressort de nous pour aller vers les autres, pour exprimer cette bonté de Dieu. Deuxièmement, nous verrons l'étendue magnifique de la bonté de Dieu. Non seulement Dieu prend soin de nos besoins, mais il ne reste pas indifférent à nos désirs. Il les connaît, il en tient compte. Et comme un père bon, comme un père chaleureux, il ne reste pas indifférent à nos désirs. Et ensuite, troisièmement, nous poserons hardiment la question de savoir, bien, et d'ailleurs une question que certains se posent, mais pourquoi Dieu veut-il que nous fassions preuve de bonté? Car même si la réponse semble évidente, elle détient en elle-même un fondement essentiel et très profond, le fondement même de la théologie chrétienne. Dieu se constitue une famille. Il se constitue une famille avec un seul esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous devons en arriver à penser comme Dieu, de plus en plus, de mieux en mieux. Et puis finalement, quatrième partie, nous devons faire attention à tous les obstacles, aux obstacles qui se dressent sur notre chemin contre la croissance de la bonté de Dieu en nous. Notamment, pour prendre cet exemple, la jalousie, la mauvaise forme de jalousie. Nous devons nous en prémunir et nous prémunir contre ces dangers sur notre chemin de chrétien. Alors commençons par une définition de la bonté. Lorsqu'on commence à parler de bonté, une parole de Dieu, une parole de Jésus, nous vient souvent à l'esprit, immédiatement. Nous y pensons, et cette pensée dit ceci, « Il n'y a que Dieu seul qui soit bon ». Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19 et au verset 16, Matthieu 19, 16 à 17, et je lirai plutôt dans la version Martin. Matthieu 19, verset 16, un jeune homme demande à Jésus, « Maître qui est bon, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu est le seul être qui soit bon. » C'est cette phraséologie qui est intéressante. Et il ajoute, « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Ici, la réponse de Christ nous révèle que la bonté ne trouve pas sa véritable origine en nous. C'est un principe fondamental que nous devons bien comprendre. Nous devons garder cela présent à l'esprit dès que nous parlons de bonté. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul a identifié la bonté comme un composant, précisément, du fruit de l'Esprit Saint. La bonté est donc une vertu qui est propre à Dieu et à Dieu seul. C'est le fruit de l'Esprit Saint qui produit la bonté en nous, qui manifeste cette bonté en nous. En d'autres termes, nous ne pouvons pas produire la vraie bonté de par nous-mêmes sans la puissance de Dieu en nous. Avant le baptême, par immersion, l'imposition des mains et avant la réception du Saint-Esprit de Dieu en nous, nous pouvions imiter la bonté. Nous pouvions en exprimer les contours ou encore être inspirés par le bon exemple des autres qui nous encourage à être bons nous aussi. Nous pouvons ainsi commencer à changer. Nous pouvons devenir moins égoïstes. Nous pouvons adopter une attitude beaucoup plus altruiste que ce que nous étions auparavant. Mais tout cela n'est finalement qu'une imitation. Au fond, oui, positive, certes, mais sans le moindre doute, d'ailleurs, encore très insuffisante en termes d'abondance, en termes de sincérité. Oui, la vraie bonté vient de Dieu. On utilise d'ailleurs les mots « bon » ou « bonté » de façon très courante dans la vie de tous les jours, de façon même vague en français, sans vraiment prêter attention à la valeur réelle de la bonté, à la valeur divine de la bonté. Par exemple, combien de fois par jour souhaitons-nous une bonne journée à quelqu'un ? Ou encore, et d'ailleurs sans y prêter attention, faire un bon café, accomplir un bon travail, faire une bonne action, souhaiter une bonne fête, avoir de bonnes intentions. Bref, autant d'actions humaines, autant de pensées humaines que nous accomplissons quotidiennement et sans vraiment prêter attention ou nous poser la question de savoir d'où vient finalement la bonté. Quand Jésus et Paul parlent de la bonté dans la parole de Dieu, ils désignent dans le grec original quelque chose qui est intrinsèquement bon. Autrement dit, c'est, ce que je disais, la bonté de Dieu lui-même qui est au cœur de la bonté en question dont il parle, de par sa gentillesse, de par sa bienveillance, de par sa droiture, qui sont évidemment incomparables. Prenez l'exemple du jeune homme riche auquel Jésus s'est adressé. Verset 17, nous en parlions donc toujours dans Matthieu chapitre 19, mais au verset 17. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Donc encore une fois, les commandements de Dieu sont bons et ils nous montrent à quoi ressemble la bonté de Dieu en action. La vraie bonté, pure, juste, sans tache, avec les bonnes motivations. Le problème, en ce qui nous concerne, nous, êtres humains, c'est qu'il est plus facile, il est plus naturel pour nous d'agir de façon charnelle, de façon égoïste. La chair est faible. Et malheureusement, nous le savons, notre tendance naturelle, c'est de nous retrouver à faire le mal, malheureusement. Pourtant, nous voulons bien faire, nous nous battons pour éloigner le mal de notre vie, les mauvaises pensées, les jalousies mal placées, la convoitise, la colère, ainsi de suite, ce sont autant de choses qui sont très franchement désagréables. Nous ne voulons pas ces choses. Elles produisent de mauvais fruits dans nos vies, de mauvaises choses. Encore une fois, le problème n'est pas dans la loi, reconnaissons-le. Le problème n'est pas dans les commandements. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Paul est très clair à ce sujet. Le problème, il est avec nous-mêmes. Paul, apôtre, en avait parfaitement conscience lui-même. Il continue en écrivant ceci dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, verset 18. Romains 7, 18. Il écrit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Il le dit, sans embâge, sans le dissimuler. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Des paroles étonnantes. Comment avoue-t-il ces choses ? C'est la réalité, c'est la vérité. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y a une loi, il y a une force qui nous invite à aller vers nos désirs égoïstes. Mais la loi de Dieu, elle, nous invite à aller dans l'autre sens et à être altruiste, à être bon. Il continue, il écrit, « Je trouve donc en moi cette loi, mauvaise, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc la loi divine nous pousse, nous révèle le mal, cette espèce de chose qui veut dominer sur nous, et nous, nous sommes encouragés à dominer sur le mal et à produire le bien, grâce à la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu est bonne, elle nous donne, elle est un garde-fou qui nous donne cet avertissement, qui nous dit « Non, mais il faut rester en deçà. » Il ne faut pas aller au-delà. Au-delà, c'est la précipice, c'est la mort. Nous avons du mal à faire le bien, d'une façon générale. Le vrai bien, le bien qui vient de Dieu, selon les standards de Dieu. Ce n'est ni humain, ni naturel. Nous voyons bien que ces choses viennent de Dieu. La bonté réelle vient de Dieu. Nous, nous sommes charnels. Nous sommes vendus au péché. La bonté, c'est donc pour nous un choix. C'est un choix, c'est tout un cheminement. Tout un cheminement, faire le bien c'est une chose, mais exprimer la bonté c'est être bon au plus profond de notre être avec le modèle, le standard de Dieu. Il ne s'agit plus de faire le bien par obligation, pour faire plaisir aux autres, bon d'accord c'est bien, mais de le faire par choix. Nous choisissons, quoi qu'il arrive, de faire le bien dans nos vies. Parce que c'est lorsque la bonté devient de plus en plus une partie de notre être, que les choses de notre être individuel puissamment influencées par Dieu. C'est là que nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est la bonté de Dieu active en nous. Et c'est cette bonté que Dieu nous aide à développer lorsque nous permettons à son Saint-Esprit d'œuvrer en nous. Paul explique ce processus particulier, notamment dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, dit-il, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pratiquer le bien grâce à la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas un but que nous allons atteindre, évidemment, du jour au lendemain. Cela prend du temps, nous aurons besoin de patience, nous aurons besoin, évidemment, de l'aide de Dieu, et il nous l'offre. Il nous l'offre, son aide. Il la met à notre disposition. Et Paul, apôtre, écrit ceci aux frères et sœurs de Rome, dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2, il leur écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu possède, nous le voyons, un plan efficace, un plan radical pour chacun de nous, à condition, bien sûr, que nous le laissions docilement opérer en nous, que nous ne résistions pas à ce changement. Ce changement, pour quoi faire? Eh bien, pour nous remodeler selon le standard de Dieu, pour nous remodeler de l'intérieur, pour nous transformer en ôtant tout ce qui nous salit, tout ce qui nous tache, en nous façonnant conformément à son image, conformément à sa bonté. Eh bien, ce processus de changement n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus très confortable. Il y a des choses qui résistent en nous. Notre nature humaine a tendance à résister à ces changements, nous l'avons vu. La soumission au commandement de Dieu va rencontrer de la résistance, une mauvaise résistance. La résistance charnelle du vieil homme, la résistance égoïste du vieil être humain qui est en nous. Mais l'Esprit de Dieu, lui, fait de nous une nouvelle création en Christ. Ce changement merveilleux, effectivement, est possible. Dieu le souhaite, Dieu le veut. Il nous suffit de laisser Dieu agir par sa grâce, par la grâce de Dieu, avec bien sûr un consentement entier de notre part, des efforts de notre part. Pour quelle raison? Pourquoi ferions-nous cela? Parce que Dieu ne force personne. Nous devons donner ce consentement parce que Dieu ne nous force pas de le faire. Nous devons être d'accord, nous devons être dociles, nous devons vouloir faire ces choses. Nous sommes créés libres, nous vivons libres, et nous avons cette liberté de choix, ce libre arbitre, parce que Dieu nous l'a donné. Dieu nous donne ce choix. Dieu nous a accordé cette liberté. L'intention divine, ce n'est pas de créer des robots, c'est de se construire une famille avec des enfants humains, prêts à devenir des enfants de Dieu. Nous avons donc le choix. Nous avons le choix. Nous pouvons décider soit de n'en faire qu'à notre tête, de rester égoïste, ou bien nous pouvons décider d'accepter ce processus de changement en nous, ce travail en nous, cet apprentissage, afin de devenir une nouvelle création, un homme accompli, une femme accomplie. Mais nous devons choisir. C'est notre premier pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'égoïsme, soit la bonté. Et si, souhaitons-le, nous optons pour ce changement, pour obtenir la bonté de Dieu en nous, alors Dieu nous accordera du temps. Il nous donnera le temps qu'il faut et il nous aidera. Mais nous devons faire ce choix. Et nous devons devenir dociles si nous faisons le bon choix envers Dieu, le laisser agir, et avoir cette relation avec lui. L'apôtre Paul décrit une partie de cette transformation, il en parle précisément, comme de notre apprentissage. Et dans Romains chapitre 12, verset 9, dans le même chapitre, il écrit « Ayez le mal en horreur, éloignez-vous du mal », autrement dit. « Attachez-vous fortement au bien », écrit-il. Et plus loin, au verset 21, il confirme « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Et là, nous nous souvenons de ce que Dieu avait dit à Caïn. Le péché couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes instructions. Reportons-nous maintenant à Ésaïe chapitre 5 et le verset 20. Nous réalisons, avant toute chose, que dans cette recherche du bien, il nous faut comprendre en permanence la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons discerner ces choses. Ce n'est pas forcément aussi simple qu'il y paraît si nous n'avons pas le vrai standard de Dieu. C'est cela ce qui nous permet de distinguer les deux. Nous vivons dans un monde qui, immanquablement, nous influence, qui a sa propre conception du bien et du mal. Et nous savons que, précisément, la tendance sociétale qui continue d'évoluer consiste à redéfinir en permanence les notions de bien et de mal. Les gens ne savent plus où ils en sont. Ils sont désarçonnés, ils sont désappointés. Au point que Dieu juge maintenant. Dieu juge maintenant en effet la société. Il dit ceci dans Ésaïe chapitre 5 et au verset 20. Il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Dieu nous demande de faire très attention. Il nous demande de rester prudents, de rester intelligents et de nous référer constamment à sa parole, qui est la vraie base, qui est la vraie fondation. La parole de Dieu, c'est le maître étalon moral dont nous avons besoin. C'est lui qui définit la parole, à travers sa parole, ce qui est bien. Le roi David s'est posé les bonnes questions à ce sujet. Et il dit dans le psaume 34 au verset 13, psaume 34, verset 13, c'est un psaume qui est toujours d'actualité, quand David écrit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Il dit ceci, voici la solution. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Combien en entendons-nous aujourd'hui ? Éloigne-toi du mal, dit-il, fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Voilà ce qui compte. Ce ne sont pas des instructions compliquées en elles-mêmes, mais elles soulignent que la bonté n'est pas passive, c'est une vertu active. La bonté intérieure est active, elle produit de bonnes actions. Il faut faire le bien, il faut rechercher l'obéissance au commandement de Dieu, la vraie fondation de la bonté et du bien. Tous les commandements. Et tous les commandements se trouvent où ? Ils se trouvent dans la Bible, Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Ce n'est pas compliqué à trouver. Et nous avons la certitude que ce sont les vrais commandements et non pas une falsification. Parce qu'il y en a. Notre devoir, c'est de résister activement, justement, à la tromperie, de résister au mal. Rien de tout cela ne se fait spontanément. Cela doit commencer avec la vraie parole de Dieu, afin de retrouver ce qui fait réellement plaisir à Dieu et à nettoyer notre cheminement intérieur vers la bonté, pour exprimer la véritable bonté dans l'obéissance à Dieu, la bonté qui vient de Dieu. Dieu est notre Père. Un Père bon ne demande pas à ses enfants de faire n'importe quoi. Il leur demande d'abord de lui obéir, parce que lui sait ce qui est dangereux. Lui sait les choses qu'il faut éviter. Et lui sait ce qui est bon et comment bien se comporter dans la vie et comment être un bon exemple. Nous sommes encore, en quelque sorte, oui, des enfants. Nous sommes petits. Dieu est immense. Il remplit l'univers. Que sommes-nous face à lui ? Nous avons besoin d'être éduqués. Donc soyons souples, soyons obéissants, soyons dociles. Il n'y a rien de mal à cela, bien au contraire. Soyons des enfants obéissants, bénéficions des bonnes choses de Dieu. Ceci nous permettra de croître en vérité, en grâce et en connaissance. Nous avons besoin de Dieu. N'oublions jamais ceci. À présent, voyons l'étendue de la bonté de Dieu. Comme je vous le disais, Dieu est bon à cause de nos besoins, mais il y a plus. Car nous pourrions nous demander, mais Est-ce que Dieu prend soin de mes désirs, de ce que j'ai vraiment envie? Mes besoins, bon, c'est une chose, mais qu'en est-il des désirs? N'ayons pas peur de poser la question. Effectivement, Dieu pourvoit-il seulement à nos besoins sans considérer nos envies? Des envies saines, des envies bonnes, nos désirs légitimes. Devrions-nous prier uniquement pour nos besoins et rien que nos besoins, rien de plus? Dieu se soucie-t-il aussi des petites choses, des choses qui nous feraient plaisir, des choses qui nous encouragent? Parfois, vous savez, lorsque nous traversons des épreuves, nous nous demandons si Dieu est conscient de notre situation, là, maintenant. Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il écoute nos prières? Nous pouvons nous poser ces questions. Dans ces moments-là, personnellement, j'ai appris à travers plusieurs expériences que Dieu peut nous offrir un encouragement très spécial, à sa façon, à travers une multitude de réponses positives à toutes sortes de prières que nous lui adressons. Pour vous donner un seul exemple, considérez votre propre liste de prières. Avez-vous une liste de prières? Vous savez, un petit carnet dans lequel vous inscrivez le nom de vos amis, le nom de vos amis avec peut-être les petits soucis qu'ils rencontrent ou même les gros soucis, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Dans votre congrégation, vous entendrez occasionnellement dans les nouvelles des demandes de prières officielles faites par des personnes qui en ont ardemment besoin et des personnes que vous connaissez ou peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore. Nous entendons ces choses et nous en prenons note. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ et nous voyons les uns et les autres effectivement traverser des épreuves parfois difficiles, avoir des soucis, avoir des préoccupations de toutes sortes. Eh bien, quel merveilleux encouragement que de voir plusieurs de nos frères et sœurs, des enfants, des adultes, délivrés de leurs soucis. Délivrés de leurs soucis, guéris de leurs maladies, ayant peut-être aussi rencontré l'âme sœur, après une longue période de solitude. Toutes sortes de besoins, toutes sortes de demandes, toutes sortes de désirs. Autant de prières exaucées que vous allez retrouver dans votre carnet au fur et à mesure que vous tournez les pages et puis que vous le reprendrez à son début une fois que les pages sont épuisées et que vous ajouterez certainement d'autres notes encore. Semaine après semaine, mois après mois, vous verrez toutes ces prières exaucées. Et ça, c'est formidable. Quel merveilleux encouragement. Alors, bien sûr, vous n'étiez pas le seul à prier pour cette personne. Évidemment, telle ou telle personne dans le besoin, il y a eu, dans les cas que je précisais, peut-être des dizaines, peut-être même des centaines de personnes dans l'Église qui ont prié pour le besoin spécifique. Il y a eu toutes ces prières qui ont été prononcées, qui ont été entendues par Dieu. Mais la vôtre, votre prière, était pourtant différente. Pourquoi? Eh bien parce que les mots que vous avez employés, c'étaient les vôtres. Le cœur que vous avez investi dans votre prière personnelle, c'était votre façon de penser, votre façon de présenter les choses à Dieu. Votre plaidoirie, votre désir de libération a été entendu, il a été exaucé, et cela, personne ne peut vous l'enlever. Vous avez prié pour cette personne a vu cette prière, sa demande de prière exaucée. Vous avez été partie prenante dans l'affaire. Et qui sait si votre prière n'a pas été un facteur déclenchant, un facteur décisif dans certains cas particuliers, Les mots que vous avez employés, les idées que vous avez exprimées. Vous étiez sans doute, peut-être, la seule personne à avoir prié de cette façon particulière. Pensez-y. Et je ne suis pas en train ici de lancer une compétition quelconque dans la façon de prier ou dans les prières, que l'on me comprenne bien. Non, je veux si simplement transmettre cette réalité, votre prière, la vôtre, la mienne, quoi qu'il arrive, elle est unique en elle-même. Elle est unique. Et le Dieu Très-Haut l'a entendue et il l'a vue, il l'a exaucée. Dans tout l'honneur, dans toute l'humilité, dans tout le désir, dans toute la supplication que vous avez bien voulu y investir. Alors de voir quelques jours, quelques semaines plus tard, telle ou telle prière exaucée dans laquelle, je le disais, nous nous sommes investis, mais quel encouragement! C'est formidable, c'est magnifique. Et de la part de notre Dieu, on pourrait dire c'est aussi une chaleureuse étreinte que nous recevons, nous qui avons prié. C'est un petit rappel de sa présence, effective, puissante, même si le moment n'est pas encore venu pour nous d'avoir la réponse de Dieu à notre demande personnelle. Elle devient plus vive, elle devient plus urgente peut-être. Nous continuons de prier pour les autres, et puis nous continuons de prier pour nos besoins, pour nos désirs. Oui, des petits rappels de sa présence, il y en a aussi beaucoup d'autres dans la vie courante, pas seulement dans les prières exaucées, dans toutes sortes de situations. Et Dieu s'assure que nous en prenons note. Il s'assure que nous sommes bien conscients qu'il est là. Et dans toutes ces situations qu'il met dans notre esprit, il nous fait comprendre que c'est merveilleux, il est intervenu, ici, là, même dans notre vie, même à notre bénéfice. Donc, restons attentifs à toutes ces petites marques d'attention, tous ces petits encouragements que Dieu nous prodigue avec amour et avec tendresse. Nous avons nos propres besoins. Nous avons aussi nos propres désirs, je le disais. Quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous taraude en quelque sorte un peu, qui n'arrête pas de se rappeler à notre bon souvenir. Peut-être quelque chose au sujet duquel notre foi a besoin d'être raffermie. Nous avons besoin d'être patients, nous avons besoin d'attendre. Donc c'est là que nous voyons ces choses qui deviennent ardentes, il y a un travail qui se fait. Quelle que soit la nature de cette demande, pour nous, c'est vrai, elle a de l'importance. C'est pourquoi nous l'exprimons devant Dieu. Nous ne pouvons tout simplement pas l'ignorer ou l'oublier. Elle est là. Même une demande concernant une chose qui n'est peut-être pas aussi indispensable dans nos vies comparées à certaines maladies, certaines épreuves que nos frères et sœurs endurent. Elle est là, cette demande, elle est là, il est là, ce désir en nous. Alors, cette épreuve, plus ou moins difficile, peut-être moins difficile que d'autres, que nous traversons, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, elle a un impact sur nous. Elle a un impact sur nous. Et il y a une raison pour cela. Dieu, en effet, nous connaît et il l'utilise pour nous aider, nous, à croître, à grandir dans le bon sens, dans la bonne direction. Dieu est notre Père, il est notre tuteur, en quelque sorte. Il veut que la plante qui nous constitue grandisse de la bonne façon, qu'elle grandisse dans la droiture. C'est pourquoi il est notre tuteur. Il nous aide à traverser cette situation et, en ce qui nous concerne, il nous tarde, bien sûr, de voir le bout du tunnel, mais nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir confiance. Comme il a pris soin de nous hier, il est présent aujourd'hui. Il écoute nos prières et il veillera tout autant sur nous demain. La bonté de Dieu nous pousse à une relation plus intense avec lui, plus profonde. Les prières exaucées dans nos vies et dans celles de nos proches sont autant d'occasions de nous souvenir de sa présence et de ses promesses. Et de le remercier, bien entendu, aussi souvent que possible pour toutes les petites choses ou pour toutes les choses invisibles qu'il fait pour nous chaque jour et que nous ne voyons d'ailleurs pas nécessairement. Mais il agit. Dans sa grande et dans sa magnifique bonté, Dieu ne distribue pas ses grâces merveilleuses à tort et à travers. Il les utilise à bon escient, bien au contraire, de la bonne façon, pour nous élever, pour nous éduquer comme il convient. Dieu sait ces choses, il sait le faire. Nous sommes à la fois les témoins de sa bonté et les témoins de sa sagesse et de son amour. Nous n'avons pas de meilleur éducateur, nous n'avons pas de meilleur entraîneur, nous n'avons pas de meilleur père que Dieu lui-même. Dieu veut justement que nous puissions refléter cette bonté dans nos vies. Alors, pourquoi ? Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons bons ? Pourquoi Dieu veut-il que nous fassions preuve de bonté nous-mêmes ? Que dit l'Écriture ? Dans le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 4, psaume 33, 4, nous lisons « La parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. » Écoutez bien, « La bonté de l'Éternel remplit la terre. » La bonté de l'Éternel remplit la terre. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que nous fassions preuve de bonté, tous autant que nous sommes. Dieu veut que sa bonté remplisse la terre, et c'est ce qui arrivera. Ce qui est bon à ses yeux est clairement énoncé dans la Bible. Or, chacun dans la société semble avoir pris, nous le savons, sa propre définition de la bonté. Que pensez-vous du caractère honnête idéal? Comment voulez-vous que les gens se comportent à votre égard? Tout ce qui a trait à la vérité, la justice, l'intégrité, la droiture, n'est-ce pas ce que nous attendons tous des autres? Et tout spécialement des personnalités, notamment responsables de notre avenir et de notre protection. Toutes ces vertus que nous réclamons des autres, elles sont liées à la bonté. Tout spécialement dans la Bible, où l'apôtre Paul s'est servi d'ailleurs de plusieurs de ses synonymes. Il dit ceci dans sa lettre aux habitants d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, 8, il écrit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. » La bonté et la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en quoi ? Consiste en toutes sortes de bonté, écrit-il, de justice et de vérité. La lumière et la bonté, la justice et la vérité. Et il termine en disant ceci, examinez ce qui t'est agréable au Seigneur. Autrement dit, cherchez, recherchez ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui est au bon plaisir de Dieu. La plupart des gens décident plutôt ce qui est bien ou ce qui est mal, non pas en fonction de ce que Dieu aime, de ce que Dieu nous a enseigné comme étant le bien, mais en fonction de leur humeur, de leurs opinions, de leurs impressions, de ce qu'ils éprouvent eux-mêmes, ou des conclusions qu'ils ont tirées dans leurs recherches à ce sujet, à ce propos. Mais la vraie base demeure, la vraie fondation, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Il est écrit dans le psaume chapitre 52, verset 3, que la bonté de Dieu subsiste toujours. La bonté de Dieu subsiste toujours. Psaume 52, verset 3. Depuis toujours, Dieu s'est engagé de façon inaltérable, de façon éternelle, à faire ce qui est bien et ce qui est juste, plutôt que de faire ce qui est erroné, plutôt que de faire ce qui conduit à l'erreur et à la faute. Dieu sait ce qu'il faut éviter. Dieu sait ce qu'il faut pratiquer. La bonté, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit divin, qui consiste à faire généreusement du bien aux gens et à leur permettre au fil du temps, de prospérer et non pas de dégénérer. Dieu désire que nous aussi, nous fassions preuve de cette bonté, de sa bonté, de sorte que nous puissions un jour pleinement lui ressembler. Et pour cela, Dieu nous permet de développer le fruit de la bonté en nous afin de lui ressembler de plus en plus, dès maintenant, sans attendre. Dieu a montré à son peuple la bonne voie, la voie à suivre. Et il les a délivrés de leurs tourments. Il les a délivrés de la dégénérescence mortifère qui accompagne le péché. À combien de reprises l'a-t-il fait ? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, disent les versets 8 et suivants dans le même psaume, psaume 52. Qu'il loue, peuple de Dieu, l'Éternel pour sa bonté. La bonté de Dieu nous pousse à être reconnaissants, à lui rendre grâce, à le louer pour le salut qu'il nous donne, pour la vie éternelle, avec lui, pensez-y, et pour tous ses autres bienfaits, bien entendu. Alors, cela dit, de même que nous sommes reconnaissants à Dieu de sa bonté à notre égard, notre propre bonté, qui nous le savons maintenant, vient de lui, devrait être une qualité dont les fruits puissent effectivement bénéficier aux autres, comme je l'expliquais, aux autres êtres humains, de de sorte qu'ils puissent eux-mêmes aussi en être reconnaissants. Et le processus se reproduit ainsi, le procédé selon la bonté de Dieu. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il quand nous décidons, si nous décidions éventuellement, indépendamment de Dieu, de décider en fait en quelque sorte ce qui est bien, indépendamment de Dieu, de décider ce qui mérite d'être mal, indépendamment de Dieu. Alors, en nous basant sur quoi ? Ce serait une chose absolument terrible, quand nous nous basons sur les valeurs morales de la société. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déformées par l'adversaire de l'humanité. Nous le savons bien, par celui qui nous hait, celui qui rêve d'exécuter un génocide universel. Il a la haine de l'humanité, il veut nous détruire. Il est écrit dans le livre, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean chapitre 8, verset 44, que cet ennemi en question a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, qui est cet ennemi qui se déguise, qui se cache si habilement ? C'est l'ancien archange Lucifer, devenu Satan le diable, toujours en activité jusqu'au jour qui s'en vient, lorsqu'il sera lié, lorsqu'il sera mis hors d'état de nuire, lui et ses légions de démons. Ce jour arrive. En attendant, il n'y a pas de bonté en lui. Ce qu'il dit de la bonté ne peut être que corrompu par des mensonges. Tout comme il a menti à Adam et Ève, le premier couple humain, il a réussi à les convaincre de goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en faisant cela, Adam et Ève s'arrogeaient évidemment le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal, indépendamment de Dieu. D'où la catastrophe qui est arrivée après, et les déboires de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Dieu détient la seule référence fiable concernant la bonté. C'est son plan pour l'humanité. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut que nous démontrions cette même bonté à partir du respect de sa loi, de ses commandements, en nous basant sur son caractère, le caractère divin. Il est écrit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 24, Deutéronome 6, 24, que l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toute cette loi, toutes ces lois, et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Voilà le but. Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut que nous soyons heureux, qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu juste et bon, pas un Dieu dur, comme souvent on nous le dépeint. En d'autres termes, nous devons être des lumières au milieu d'une société obscure, une société qui mélange habilement le mensonge et la vérité, le mensonge et la réalité, une société de la dissimulation organisée. Les commandements divins, eux, la justice divine, représentent seuls la fondation morale d'une société humaine juste, paisible et prospère. Et maintenant, une question. Y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité des chefs d'État exemplaires, reconnus comme tels, de bons rois ou de bonnes reines ? Alors évidemment, les chroniqueurs du temps passé ont toujours eu grand intérêt à ne dire que du bien de leur souverain. Ils répondaient sur leur propre vie, de la qualité de leur chronique. Il faut donc enquêter, si nous voulons savoir la vérité, il nous faut donc enquêter pour chaque personnalité du passé, sur les témoignages de leurs bienfaits et de leurs méfaits. Qu'en est-il, par contre, lorsque le chroniqueur est Dieu lui-même ? Qu'en est-il ? Dieu ne peut pas mentir. Et lorsque l'histoire d'un roi est couchée par écrit dans la Bible, dans la parole divine, Dieu prononce dans les livres des rois un jugement tranchant. Dans chaque cas, et nous lisons soit l'un, soit l'autre. Il nous est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ou bien il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Cette dernière phrase étant d'ailleurs beaucoup plus rare, malheureusement, La Bible est loin d'être un ouvrage élogieux envers Israël, et pourtant c'est un ouvrage d'amour, c'est un ouvrage de bonté envers elle. Par exemple, le roi Ézéchias fit ce qui est bien, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et dès le début de son règne, eh bien, il fit ce qui est bien, c'est-à-dire il nettoya le temple de l'Éternel à Jérusalem, qui était tombé dans un état d'abandon lamentable, dans l'idolâtrie. Il a permis que le vrai culte de Dieu y soit rétabli, en commençant par la célébration de la Pâque de l'Éternel. Et puis après, il fit la même chose dans tout le pays. Toutes les influences païennes, horribles et mortifères furent retranchées du territoire. Dieu permit même à Ézéchias de tenir tête au roi le plus puissant du monde connu en son temps, Sanchérib, roi d'Assyrie. Il s'était en effet moqué de Dieu et de ses déclarations. Et c'est un avertissement d'ailleurs pour nous tous. Un chef d'État doit toujours faire très attention à sa façon de parler de la parole de Dieu. Dieu voit tout, il entend tout, et un chef d'État est toujours, toujours responsable devant Dieu, quoi qu'il en pense. Parmi les mauvais exemples de chefs d'État, un nom revient souvent comme étant l'un des pires exemples en la matière. Le roi Manassé, tel est son nom, n'était pas connu pour sa bonté. Et il fit effectivement ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il provoqua au fil des ans des dégâts nationaux irréparables. Il réintroduit des pratiques païennes épouvantables, y compris des sacrifices d'enfants, y compris la sorcellerie, la magie, l'occultisme, c'est-à-dire la communication avec les puissances démoniaques, avec toutes les conséquences absolument effroyables qui s'ensuivent au final. Autant de pratiques que Dieu déteste, qu'il réprouve, des pensées qui n'étaient même pas venues à son esprit, nous est-il dit dans la Bible. Manassé alla même jusqu'à ériger un autel païen dans le temple de l'Éternel. Et son fils Amon, encouragea également ces horribles pratiques quand il devint roi à son tour. Ces exemples peuvent sembler étranges. Mais Manassé ne faisait que pratiquer ce que les gens faisaient partout, sous l'influence des nations environnantes, des nations étrangères, qui introduisaient une autre religion, non pas la religion de Dieu, qui, elle, donne l'espoir de la vie, mais une religion mortifère, de violence et de haine. Or, justement, en adoptant les définitions que d'autres avaient du bien et du mal, eh bien, il incitait la nation de Juda à commettre le mal, qui est le contraire du standard divin de la bonté. Et de nos jours, il y a aussi des choix à faire. Nous devons évaluer les idées de la société à propos de ce qu'elle appelle le bien. Nous devons réfléchir à ce qu'a dit le prophète dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » C'est un avertissement très sérieux, très solennel. Alors, voici quelques questions maintenant pour évaluer notre degré de bonté. Quelques questions que nous pourrions nous poser pour évaluer l'étendue réelle de notre bonté personnelle. Première question, sur quoi est-ce que le bien que je fais est-il basé? Quelle est la fondation de ma référence concernant le bien? Est-ce que c'est sur les standards de la société? Est-ce que c'est sur les standards que je me suis fixé de ma propre autorité? Je pense que ça c'est bien et que ça c'est mal. Ou bien, est-ce que c'est basé sur les standards divins, les standards de Dieu, les standards de bonté énoncés dans la Bible, qui, nous le savons, est la seule référence stable et solide? Où est-ce que je base ma conception du bien, de la bonté, sur les trois à la fois, les trois standards que je viens de citer, ou peut-être sur un seul de ces trois standards? Faisons la liste de toutes les bonnes actions que nous avons l'habitude de faire ou que nous avons faites. Nos bonnes actions, nos actes d'amour, nos actes de bonté les uns envers les autres, passons-les au crible du test. À quoi se réfèrent-ils? Deuxième question. Si le bien que je fais repose en effet sur les standards divins, prenons ce cas, ai-je passé en revue les 10 commandements? Est-ce que je les ai passés en revue? Par exemple, qu'en est-il d'un mensonge pieux? Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge pieux? Un mensonge qui, en fait, serait prononcé pour faire du bien? Vraiment? Que dit la Bible? La Bible dit qu'un mensonge, c'est un mensonge. C'est un faux témoignage, une transgression de la loi, ou dans son 9e commandement. Aux yeux de Dieu, la fin ne justifie pas des moyens illégaux. Illégaux par rapport à la loi suprême, par rapport à la loi de Dieu. Troisième question. Suis-je généreux en faisant du bien aux autres? Suis-je généreux? Quelle est ma conception de la générosité? Quatrième question. Quelle est ma conception de la justice? Aurais-je tendance à accorder plus de faveurs à l'un plutôt qu'à l'autre? Est-ce que je fais acception de personne? Et si oui, pour quelle raison? Serait-ce dans l'attente d'un retour d'ascenseur, comme on dit? Est-ce que j'octroie une faveur pour qu'on m'en rende une autre? Dieu voit notre cœur. Il en voit le détail. Cinquième question. Que pense Dieu de ce que je m'apprête à faire, là, maintenant, en tant qu'action, en tant que pensée, et que je trouve bon, acceptable? Que me dit ma conscience à ce sujet? Ou y a-t-il un verset biblique qui rentre en contradiction avec cette intention, avec cette action, et qui me laisse un doute? Comment le prouver en ouvrant ma Bible? Pour obtenir des réponses, nous avons un site qui répond à des centaines et des centaines de questions que nous pourrions nous poser sur la vie. Ce site est en bas de cette page. Notre site Vie, Espoir et Vérité répond à quantité de questions que nous pouvons nous poser. N'hésitons pas à le consulter. Je le fais moi-même pratiquement toutes les semaines. Même toutes les semaines, oui. Il y a des centaines d'articles sur tous les sujets de la vie. En revanche, il ne faut pas se voiler la face. Sur notre recherche de la bonté, il y aura des obstacles. Et être bon dans tous les domaines, cela semble effectivement un peu éloigné de la réalité, surtout dès qu'il s'agit d'être bon et généreux envers les autres. Alors, il y a des obstacles dans notre vie, des obstacles à la bonté. Dans certains moments, nous savons que peut-être nous aurions dû agir de telle et telle façon, avec plus de bonté. Comment contrôler ces émotions négatives, ces frustrations qui nous empêchent d'agir avec bonté, comme nous aurions voulu le faire, comme nous souhaiterions le faire, comme l'apôtre Paul le disait. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un obstacle, la jalousie. Cette obsession négative autour de notre prochain que nous observons, notre prochain réussit, il fait mieux que nous, et voilà que tout d'un coup, cette émotion surgit en nous, une émotion négative, nous commençons à ressentir de la jalousie. Eh bien, comment corriger le tir? Ne devrions-nous pas, au contraire, le promouvoir puisqu'il réussit? Ne devrions-nous pas, au contraire, en vue de la réussite du bien commun, l'encourager, au lieu de continuer à nous auto-promouvoir nous-mêmes? Promouvoir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a des qualités, quelqu'un qui peut servir le bien commun. Prenons note de celui ou de celle qui réussit et qui fait mieux que nous. Parlons-en autour de nous. Ne cachons pas la vérité positive à son sujet, quand bien même, peut-être elle amoindrirait notre propre succès. Quelle importance! Car si justement nous faisons bien, si nous agissons bien par imitation et nous devenons en quelque sorte un meilleur acteur, tendant vers l'excellence, nous aussi, eh bien, quelqu'un d'autre ne finira-t-il pas par en prendre note à son tour? Donc, montrons le bon exemple. La mauvaise jalousie ne fait que produire l'inquiétude, l'anxiété, la colère. Il faut y mettre fin avant qu'elle ne finisse par produire un mépris mortifère ou meurtrier. Nous devons absolument nous repentir de ce genre d'émotions négatives. Comment maîtriser nos émotions? Le début de solution pratique que je souhaite proposer et que j'ai précisément trouvé dans un article de Vie, Espoir et Vérité, c'est celui-ci. Nous devons absolument chasser les pensées négatives pour les remplacer par les bonnes. Ça paraît simpliste, et pourtant à chaque fois, c'est exactement la solution dont nous avons besoin. On ne peut pas enlever l'air qui se trouve dans un récipient. Il est là, et l'air remplit constamment ce récipient. On ne peut pas l'enlever. Par contre, on peut le remplir avec autre chose, on peut le remplir avec de l'eau. Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est en quelque sorte le même procédé. Dieu nous donne la puissance d'agir, si nous demandons cette puissance d'action. Quiconque demande, reçoit. C'est pourquoi, si Dieu nous donne sa puissance, son Saint-Esprit humain, notre esprit, son Saint-Esprit divin, notre esprit humain, à nous, a certaines pensées, et nous pouvons effectivement maîtriser ces pensées en remplissant notre esprit humain avec de bonnes choses, avec de bonnes pensées. Dieu nous donne aussi le vouloir et le faire. Demandons la bonté de Dieu. Demandons cette bonté. Dieu nous donnera cette bonté. Demandons son amour, demandons sa sagesse, demandons la foi de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toutes ces choses, et en particulier de la bonté de Dieu. Pourquoi ? Afin que nous puissions enfin avoir en nous cette bonté divine, et que nous puissions l'exercer au bénéfice des autres, aller vers les autres, et aussi au bénéfice de Dieu, qui récoltera, en temps voulu, le fruit de son esprit en nous. Dieu est dans l'attente d'une récolte divine qu'il fera. Il veut voir cette bonté en nous. Alors, en conclusion, prenons le temps de noter encore ce que nous venons d'identifier. La bonté de Dieu en nous, c'est premièrement ce qui trouve son chemin en nous par l'Esprit de Dieu, pour ensuite ressortir et aller vers les autres, en donnant aux autres. Deuxièmement, l'étendue magnifique de la bonté de Dieu, nous la voyons quand Dieu prend soin de nos besoins et prend soin aussi de nos désirs. Il en tient compte, car c'est un Père bon et un Père chaleureux, à nul autre pareil. Ensuite, troisièmement, Dieu se constitue une famille divine. C'est son plan. Il a un seul et même esprit dans cette famille, l'Esprit de Dieu, son esprit, l'Esprit dans Jésus, l'Esprit en Dieu, l'Esprit qu'il veut en nous. C'est pourquoi Dieu veut que nous fassions, nous aussi, preuve de la même bonté. Et c'est pourquoi aussi nous devons penser comme Dieu pense, de plus en plus. Et puis finalement, quatrième partie, nous marchons vers la victoire, dans l'expression de la bonté. À chaque fois que nous abattons les obstacles qui se dressent contre la bonté de Dieu, notamment la jalousie, mais aussi les frustrations, la colère, le sentiment d'abandon, nous reprenons courage. Redressons-nous. Dieu nous aide et il ne nous abandonnera pas. Et puis, frères et sœurs, soyons reconnaissants. Disons merci à Dieu pour le pouvoir divin qu'il nous donne, le pouvoir divin de cette merveilleuse bonté que Dieu nous accorde et qu'il veut voir s'épanouir en chacun d'entre nous.